Oui, on parlait en fait de la joie du public de retrouver les salles et les distributeurs et du monde du cinéma et de la jeunesse qui revient dans les salles, David Marsay.
Oui, oui, tout à fait. J'étais, moi, vraiment touché de voir des gens dans les salles quand on a fait la tournée un petit peu lors de l'ouverture. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment, moi, ému, c'était de voir des jeunes, vraiment. Oui. Parce que, voilà, on dit que les jeunes ne vont plus au cinéma, mais c'est faux.
Que voir au cinéma en dehors des trois films de nos invités, Laurent, on va commencer, pas pour les jeunes peut-être, mais qui est super intéressant, c'est Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky, entre Moments d'angoisse et d'extase, avec un acteur étonnant, Alberto Testone.
Oui, alors c'est une ressortie, mais le film avait été hélas plombé par la fermeture, donc on essaie bien aussi d'en reparler. Bizarrement, au cinéma, Michel-Ange, il n'y a pas eu beaucoup d'incarnations. En fait, il n'y en a eu qu'une seule précédente, c'était en 1966 avec Charlton Heston. Donc c'est Konchalovsky s'attaque à un monument, évidemment, de l'histoire de l'art, et en même temps un paysage pas beaucoup défriché au cinéma, donc c'est d'autant plus excitant. Alors ça a peut-être les défauts habituels du biopic, sur la représentation, sur l'incarnation. Là, on a vraiment... Alors, en termes d'acteur, c'est quasiment l'inverse de Charlton Heston. Hein. C'est une petite chose brune, presque fragile. Bon, mais pourquoi pas, après tout, hein, on s'en fiche de savoir à quoi ressemble Michel-Ange. C'est pas le propos. Le propos, il est notamment dans un moment très long, mais bien senti du film, où il doit s'attaquer à un énorme bloc de marbre, qu'il appelle lui-même le monstre. Et là, on est dans une sorte de Fitzcarraldo, c'est-à-dire il doit franchir une montagne qui est devant lui, ça c'est extrêmement réussi parce qu'on est avec lui, on le sent absolument démuni, tout petit face à ce bloc énorme de qui vient de Carrare, qu'il a lui-même choisi qui est pour déplacer ça à cette époque-là, c'est incroyable. Donc ça c'est vraiment le cœur battant du film et c'est très 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 réussi, ça vaut vraiment le coup de ce point de vue-là avec cette merveilleuse idée qui a plein de facettes évidemment dans le film. Le film s'appelle donc Michel-Ange et il est signé Konchalovsky.
Ça pourrait être une reprise, on n'est pas une, il est sorti en 1974 mais jamais sorti en France. C'est The Wicker Man de Robin Hardy, un policier vient enquêter sur la disparition d'une fillette sur une île écossaise.
Mais oui, quel bonheur, c'est un film qui date de 1974, moi je l'ai découvert parce qu'effectivement il n'est jamais sorti sur grand écran en tous les cas en France. Alors, c'est un petit côté Le Prisonnier, là, cette série qu'on a adorée, parce qu'il débarque sur cette île, il débarque d'ailleurs en avion avec un petit biréacteur, il se pose sur la mer, c'est extraordinaire, là, le début est formidable, et il va tomber sur effectivement un village à la façon du prisonnier, avec, tenez-vous bien, en gourou, Christopher Lee. Ça, c'est extraordinaire. Quand on tombe sur Christopher Lee, on s'inquiète un petit peu. Mais là, il est effectivement à la tête d'une secte, alors aux pratiques sexuelles, un peu de débauche collective, etc. Donc, c'est étonnamment dans les années 70. Et ce que l'on n'a pas dit, c'est que le scénario est juste signé Anthony Schaeffer. Et Anthony Schaeffer, avant, il avait fait le scénario de Frenzy et le scénario du Limier. Ouais. Excusez du peu. À partir de ce moment-là, on sait qu'il est capable de raconter une histoire, et il la raconte formidablement bien, et ce que fait Robin Hardy à côté, c'est de prendre acte que ça raconte une histoire et un milieu totalement fou, et ces images vont avec. Donc on a la rigueur d'un scénario d'un côté, la folie des images de l'autre, ça fait un film étonnant, The Wicker Man.
Elle ne chantait que la vérité, elle ne connaissait rien d'autre, c'est Billie Holiday, et c'est un doc incroyable. En fait, elle est racontée par une autre femme.
C'est ça, une journaliste.
Très troublant et émouvant. Ouais.
Oui, une journaliste qui, dans les années 70, a fait 200 heures d'entretien sur la vie de Billie Holiday et elle-même est morte dans des conditions très mystérieuses. Ouais. Donc, elle n'a jamais pu aller au bout de son travail. Le film le fait, lui rend hommage aux deux, c'est-à-dire à Billie Holiday et à cette journaliste, en plus en travaillant la forme. Il y a des colorisations. Bon, on peut ne pas être d'accord avec ce principe, mais ils sont faits par une artiste plasticienne, donc c'est très très bien fait. Et puis surtout, c'est le portrait de cette femme noire indépendante qui a mené une vie de star au nez à la barbe de cette Amérique blanche des années 50-60 qui lui en voulait énormément.
Juste dire qu'il ne faut pas oublier non plus Joseph, ni Drunk, ni Une vie secrète après avoir vu vos trois films. On signale très vite cet exploit Beaubourg qui vient de démarrer, qui est génial, autour de Abbas Kiarostami sur 1000 mètres carrés. Tout Abbas Kiarostami plus une rétrospective intégrale de ses films, mais on y reviendra. Tout ça pour parler d'une autre exposition étonnante à l'Institut du Monde Arabe, Laurent.
Mais oui, qui s'appelle Diva, d'Oum Kalsoum à Dalida. Allez voir, si vous êtes parisien évidemment, mais si vous montez à Paris, ben allez voir cette exposition à l'Institut du Monde Arabe.
C'est féminin et féministe à la
fois. C'est extraordinaire. 1920-1970, pendant 50 ans, les femmes au cinéma et sur scène ont pris en quelque sorte une part du pouvoir. Férouz, Warda, Oum Kalsoum bien sûr, Dalida, celle dont je préfère à la fois le nom, mais aussi les chansons chanson Taïa Carioca. C'est évidemment un pseudonyme, mais prendre ce pseudonyme-là en plein Égypte, je trouve ça merveilleux. Et du coup, ça génère un superbe catalogue d'exposition qu'on vous offre, Emmanuel Béart, en vous disant d'aller voir cette expo. Merci. 200 illustrations, 21 articles, et vous verrez ce qu'on voit au fil de l'exposition et au fil de cet album publié par les éditions Skira et Lima. Eh bien, c'est qu'aucune de ces femmes n'est voilée. 1970, des stars absolues, aucune n'est voilée, à bon entendeur, salut.
Et même les productrices, les musiciennes, des patronnes de presse, il y a les robes magnifiques et à la fois l'intellectuel. Enfin,
on n'a pas cité les deux commissaires, Anna Boganim et Elodie Bouffard. C'est une exposition extraordinaire qu'il faut aller voir à l'Institut du Monde Arabe et lire ce livre aux éditions Skira.
Cadeau pour Charlène Favier.
Eh bien, c'est un film de femme pour vous, voilà, que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui s'appelle The Boys Next Door. La femme en question, Penelope Spheeris, c'est une cinéaste américaine qui fait ce film qu'on vous offre, donc qui est publié par les éditions Carlotta.
Merci.
Qui fait ce film dans les années 85 exactement.
Entre Teen Movie et Serial Killer. Un peu,
exactement, deux ados nouvellement diplômés, un week-end à Los Angeles et ça dégénère. Et en plus, ils ont un rapport avec Patty d'Armanville. Oui, la lady d'Armanville, absolument elle. C'est glaçant, jamais complaisant. La violence n'est jamais montrée de façon complaisante. De même, ils décident de passer, tenez-vous bien, une journée préhistorique. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire en se remettant dans les pas des hommes préhistoriques avec tout ce que ça veut dire en termes de violence. Donc c'est extraordinaire, les bonus sont à la hauteur avec notamment un entretien avec la réalisatrice et c'est édité par Carlotta, The Boys Next Door.
Et enfin pour David Marsay, un film d'homme, La manière forte de John Badham.
Ben évidemment, un buddy movie, voilà, pour vous, un movie bien sûr, voilà, La manière forte. Hein, on sait bien, Michael G. Fox et James Wood, un flic et une star hollywoodienne, ils se rencontrent, ça se passe pas toujours très bien, mais le film de potes, c'est ça. Je rappelle quand même que les premiers films de potes, c'est Laurel et Hardy. Hein. Vous avez des bons prédécesseurs hein, quand même dans l'histoire du cinéma, c'est pas mal. C'est publié par Rimini, cette manière forte de John Badham.
Merci beaucoup.
On n'a pas oublié du tout la 7e Obsession, qui est une merveilleuse revue de bimestrielle de cinéma. Et figurez-vous qu'elle fait sa couverture sur les animaux et le cinéma. C'est pour vous, La Mouche, merci. Mais on l'offre aussi à nos deux invités, bien entendu. Les chèvres, vous connaissez. Il y a des chiens, il y a des mouches, il y a des araignées. Le cinéma et les animaux, c'est toujours d'actualité. Bon numéro de la 7e Obsession.
Merci beaucoup, Charlène Favier.
Merci beaucoup,
Emmanuel Béart. C'était votre dernière promo.
Yes.
Merci là-bas, accompli pour nous, pour ce film L'Étreinte. Merci David Marsay pour Mandibule. Merci. Vive le cinéma ce week-end avec tous vos films. Au revoir.